Chapitre 10. Samedi 15 avril, 8h30. Le 50e anniversaire de Henry James fut aussi froid, solitaire et sinistre qu'il aurait pu l'imaginer s'il avait écrit une nouvelle bourrée de pathos. Il était resté éveillé une bonne partie de la nuit à lutter contre des nausées qu'il avait fait se précipiter aux toilettes trois fois avant que l'aube ne commence à dessiner les contours des fenêtres de sa chambre d'hôtel. Au moment de régler sa note, il avait un billet pour le train de 21h à destination de New York. Il savait que Sam Clemens était parti deux jours plus tôt et le réceptionniste, quand il l'interrogea, lui apprit que M. Holmes avait quitté l'hôtel de très bonne heure. La pluie, seulement menaçante la veille, tombait maintenant en un déluge ininterrompu. L'air était si froid qu'on se serait cru en novembre plutôt qu'à la mi-avril. Même les élégants portiers se recroquevillaient sous leur parapluie et arboraient une expression grincheuse par cette journée sombre et glaciale. En fin d'après-midi, la veille, quand Holmes et lui étaient revenus au Great Northern après leur étrange visite du site de l'exposition universelle à travers les yeux d'un assassin, James avait eu la surprise de découvrir deux télégrammes qui l'attendaient. Le premier lui était adressé par Henry Adams. « Joyeux anniversaire un peu prématuré, Harry, stop. Je sais que vous devez avoir hâte de repartir en Angleterre et à votre œuvre magnifique, mais j'espère sincèrement que vous repasserez par Washington et serez mon invité quand votre affaire sera réglée. Stop. Nous sommes de vieux amis, Harry, et je sollicite le plaisir de votre compagnie pendant les deux prochaines semaines au nom de ma Clover bien-aimée. Stop. Joyeux anniversaire, mon cher ami. » James fut stupéfait. Il ignorait comment Adams avait découvert qu'il se trouvait à Chicago et plus précisément où il logeait. De plus, ça ne ressemblait pas du tout à Adams de l'inviter à séjourner chez lui. Depuis la mort de Clover, il recevait rarement des hôtes dans sa grande maison. Le deuxième télégramme venait des Hay. « Très bon anniversaire, Harry. Peut-être célébrez-vous cette journée particulière pendant que vous êtes en transit. Mais Clara et moi espérons sincèrement que vous accepterez la proposition d'Adams et reviendrez séjourner à Washington avant de retraverser l'Atlantique. Stop. Nous avons tant de choses à discuter avec vous. En personne. Stop. » Cabot Lodge s'est occupé de réserver un train spécial le 29 avril pour l'inauguration de l'exposition et s'est procuré des laissez-passer spéciaux pour nous tous. Stop. Clara et moi aimerions beaucoup que vous nous accompagniez pour cette expédition. Stop. Bon anniversaire. James avait retenu Holmes dans le lobby avant qu'il ne remonte à sa chambre.
« Avez-vous prévenu les Hay et Henry Adams que nous étions descendus au Great Northern ?» lui avait-il demandé d'un ton sec.
Holmes avait paru un peu surpris par sa véhémence.
« Bien entendu, mon cher. Je pensais que vous voudriez que vos vieux amis sachent où vous étiez. Surtout juste avant votre 50e anniversaire. »
La colère de James avait redoublé en entendant ce dernier commentaire, mais il se refusait à satisfaire le sens de l'humour sardonique de Holmes en lui demandant comment il connaissait sa date de naissance. « Et si nous dînions ensemble ce soir dans cet intéressant petit restaurant italien un peu plus bas dans Jackson Street ?» avait proposé Holmes. Le concierge me l'a chaudement recommandé. Et nous ne nous reverrons peut-être pas avant quelque temps. » James avait commencé par vouloir dire non, s'était arrêté, avait commencé à poser une question et s'était arrêté encore. Serrant dans sa main les télégrammes à propos de son anniversaire redouté, il avait jeté un regard noir à Holmes.
« Très bien », avait dit ce dernier.
« Je vous retrouverai sans faute dans le lobby à 20h. » Durant la nuit, entre ses crises de nausée, James avait pesé sa décision. Il avait étudié les horaires des chemins de fer. Un train partait de North Station à 21h45 pour Pittsburgh, où il pourrait prendre une correspondance pour Washington. Le train pour New York partait de la vieille gare du centre-ville à 21h. Dès son arrivée, il pourrait réserver un billet pour Portsmouth sur le SS United States, un nouveau paquebot transatlantique dont il avait entendu beaucoup de bien. Finalement, ce fut la pensée de son appartement ensoleillé de Devere Gardens, de sa table de travail qui l'attendait, des salons qu'il recommencerait à fréquenter, des maisons de campagne de la gentry où il serait invité, tout ça et le sentiment de sécurité viscérale qu'il ressentait au milieu de ses livres qui l'incitèrent à choisir New York, puis un retour à la maison. À la gare, il avait trouvé un porteur pour se charger de ses malles, empilé sur un chariot, et avait acheté son billet quand, dissimulé comme il l'était derrière un poteau de fer et sa montagne de bagages, il vit le professeur Moriarty longer les wagons de première classe de son train en regardant par les fenêtres. « Il me traque », telle fut la première pensée angoissante de James. Une pensée portant tout le poids de la certitude. Deux hommes à la mine patibulaire vinrent dire un mot à Moriarty qui les envoya chacun d'un côté des voitures. Moriarty embarqua et commença à parcourir les wagons de première classe. James observa sa progression de l'un à l'autre, un épouvantail à haut front et cheveux blancs, avec un manteau de croque-mort et de longs doigts d'étrangleur. Il était parfaitement illogique que le professeur Moriarty soit à sa recherche. Il était sûr de ne pas avoir été vu le soir où il s'était caché sur cette abominable poutre au-dessus des têtes de Moriarty et de sa petite armée de voleurs et d'anarchistes. La seule personne à qui il en avait parlé était Holmes. Mais Holmes avait sûrement informé Drummond, les chefs des polices de Chicago et de Washington, et Dieu sait combien d'autres gens en Amérique et en Europe, pour qu'ils soient en alerte avant les assassinats et les soulèvements du 1er mai. Vu comme ça, c'était tout à fait logique. James savait que Moriarty disposait d'un vaste réseau criminel en Europe et même aux États-Unis. Quelqu'un dans les forces de l'ordre, gangréné par la corruption, avait prévenu un des sous-fifres du professeur. Il était possible, bien sûr, que Moriarty fouille le train à la recherche de Sherlock Holmes et, pour ce qu'en savait James, le détective pouvait fort bien être à bord et sur le point de se faire tuer, mais au fond de lui-même, Henry James sentait que le professeur Moriarty et ses tueurs le cherchaient, lui, en cette matinée froide et pluvieuse. Comme pour confirmer son intuition, Moriarty descendit du train et regarda trois autres malfrats s'avancer vers lui. Il avait posé les mains sur ses hanches en signe d'exaspération et James observa ses très longs doigts aux très longs ongles jaunes qui ressemblaient à de grandes araignées blanches sur le velours noir. Moriarty donna des ordres à ses trois acolytes, puis se tourna brusquement dans la direction de James, mais ce dernier avait juste eu le temps de se baisser derrière sa masse de bagages. Il lui fallut 30 secondes pour rassembler le courage de se redresser afin de jeter un coup d'œil, et il relâcha son souffle en voyant que Moriarty s'était remis à marcher le long du train en regardant par toutes les fenêtres aux rideaux ouverts.
« Dois-je charger vos bagages maintenant, monsieur ?» demanda le porteur.
L'homme avait attendu patiemment, demeurant impassible devant la soudaine pâleur de James et son ridicule jeu de cache-cache.
« Non, répondit James. « Trouvez-moi un cab. » « N'importe lequel, aussi vite que possible, et dépêchez-vous de charger mes bagages. Voici, pour votre peine. »
Il sortit un billet de son portefeuille et le lui tendit. Le porteur toucha sa casaque et répondit
« Tout de suite, monsieur. »
James resta caché derrière le chariot à bagages jusqu'à l'endroit où étaient stationnés les cabs, hocha la tête quand le porteur désigna une luxueuse calèche fermée, retint son souffle pendant que l'homme la chargeait avec une lenteur épouvantable, et ne recommença à respirer que lorsque le cab s'éloigna en vitesse de la gare et du professeur Moriarty. James, toujours à cran, faillit sursauter quand la trappe s'entr'ouvrit au-dessus de sa tête, juste assez pour ne pas laisser passer la pluie.
« Où allons-nous, monsieur ?»
lui demanda le cocher.
« À North Station !»
répondit James d'une étrange voix aiguë.
« Et vite, s'il vous plaît! Je dois attraper un train à 21h30. Il y aura une récompense pour vous si nous arrivons à la gare en avance !»
Le cocher mania le fouet. Le cab fila au milieu de la circulation comme s'il participait à une grande course de chevaux. James dut s'accrocher des deux mains à la banquette pour ne pas être ballotté de droite à gauche. D'autres cochers et des piétons leur crièrent des insultes alors que le cab les éclaboussait en passant.
« Qu'allez-vous faire ensuite ?» avait demandé James à Holmes la veille au dîner.
Holmes, fumant déjà après avoir expédié son repas, avait porté un doigt à sa langue pour en retirer un brin de tabac.
« Oh, j'ai plusieurs choses à examiner ici et là. Je devrais être occupé jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le train privé de M. Cabot Lodge le 28. »
James avait eu grand mal à se retenir de crier « Je ne prendrai pas le foutu train de Lodge, et je ne serai pas votre Boswell, et je n'apprécie pas d'être abandonné comme ça dans une ville inconnue la veille de mon anniversaire, et je suis fatigué, et je rentre chez moi. » Il n'avait rien dit de tout ça, bien sûr. Par deux aimables télégrammes envoyés de New York avant le départ de son bateau, il transmettrait ses remerciements et ses regrets à Henry Adams et au Hay. Une fois que son cocher l'eut déposé à peu près en un seul morceau à North Station, avec beaucoup d'avance et qu'il eut acheté son billet pour Pittsburgh avec correspondance pour Washington, Henry James s'installa dans son compartiment quasi vide et surchauffé. Le front appuyé contre la vitre fraîche, il regarda les canyons noirs de Chicago s'éloigner sous la pluie, puis détourna les yeux quand le train traversa une friche industrielle parsemée de tas de scories et de masures sordides qui ressemblaient à une mauvaise imitation américaine d'un paysage à la Dickens. « Joyeux anniversaire, Henry James », songea-t-il alors que le train s'éloignait des faubourgs pour gagner la campagne dans un fracas toujours plus assourdissant. « Tu as 50 ans.
En cet instant, il se prit à regretter de n'avoir pas fait ce qu'il était allé faire au bord de la Seine ce soir-là, ce qu'il avait eu l'intention de faire, s'était résolu à faire dans ce sombre fleuve. Ce soir-là aussi, il pleuvait.